la basse, et il y a beaucoup de basse, enfin je sais pas comment dire quoi.
C'est tout à fait clair, Arnaud. Enfin, en tout cas, ce que tu dis, je l'imprime à 100%. J'espère que nos auditeurs, nos amis auditeurs aussi. Je voulais juste rappeler aux gens, parce qu'on arrive en fin de première heure, on est avec Arnaud Fradin et on est en train d'écouter Tranquillou, l'album de Arnaud Fradin, The Roots Combo. Et puis, ben là, dans une seconde, c'est...
666, il est 14h.
Voilà, 14h, on attaque Tranquillou. La deuxième heure, on est ensemble jusqu'à 16h et on va poursuivre avec Big Mama's Door. Et c'est toujours le Roots Combo avec Arnaud Fradin au téléphone. Arnaud, on est là pour commenter la musique au fur et à mesure et puis en écouter quelques secondes aussi peut-être de cette intro. Qui aurait pu partir à l'envers au niveau rythmique.
Exactement. Ouais, carrément. Ouais, c'est un contre-pied un peu du truc.
C'est de l'anti-Magic Sam, ça. Hein.
C'est
clair.
Ouais, donc, t'as pu partir en boogie, mais c'est parti plus en binaire, quoi. Mais justement, c'était ce côté un petit peu. Dans ce morceau-là, il y avait ce côté un petit peu. La musique blues des collines, hein, comme on dit là. Où justement, il y a ce côté un peu lancinant et qui peut être binaire, quoi. Comme les trucs de R.L. Bandside.
Tu parles du Piedmont Blues, c'est ça?
C'est le Hill Country Blues.
Ouais.
Et du coup, il y avait ce côté-là, et puis le côté binaire aussi, un peu moderne, et puis c'était aussi pour changer aussi avec la version originale de Alvin Youngblood Art, qui est hyper bien.
Ah d'accord, voilà, ok.
C'était Alvin Youngblood Art, et c'est vrai que moi j'étais... J'ai beaucoup écouté son album acoustique aussi qu'il a sorti, je crois que c'était chez OK, en 95, un truc comme ça.
C'est un de ses premiers parce que 95, ouais. Oui, ça remonte.
C'est vieux, mais c'est un de ses premiers, mais je trouve qu'il est excellent. Enfin, je trouve que c'est un très bel album, bien produit d'ailleurs, et très simple et très, très touchant.
Alors, je ne serais pas allé chercher ça, franchement. Tu m'as scotché, tu m'as collé encore une fois, Arnaud, là, sur ce truc. Par contre, pour le prochain, c'est forcément un titre qu'on t'entend faire depuis longtemps. Et je veux juste signaler qu'il y a également Bobby Ansu qui l'a mis à son répertoire il y a déjà quelques temps. C'est le Hard Time Killing Floor de Skip James.
J'ai écouté en version parce que je serais curieux d'entendre.
Ah oui, ils ont fait une très très jolie version guitare et chant uniquement. Le chant donc dessous et puis la guitare de Bobby.
Oui, hein, exact.
Et là, voilà, c'est encore différent l'approche. Hein.
Ouais, c'est cool.
Voilà, pendant qu'on écoute, Arnaud, je reviens sur le Facebook. Il y a des amis qui nous posent des questions. Alors, je vais te les lire. C'est tout simplement ça. Toujours Thierry Langrand qui te demande s'il y aura des dates dans la région normande. Est-ce que c'est prévu?
Oui, je pense qu'il va y en avoir. Hein. On est en train de commencer à établir notre petit planning pour l'année. Ça prend son temps, mine de rien. Mais c'est sûr que je pense qu'il y aura des dates, sachant qu'en plus... Igor est un peu du coin là-bas, donc il y a des grandes chances qu'on y retourne d'une manière ou d'une autre.
Thomas aussi, j'ai envie de dire.
Thomas aussi. Dès qu'on aura l'opportunité de pouvoir caler aussi des dates sur la route, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte.
Bien sûr.
Pour caler des petites dates.
François Defin te demandait quid de Staggerly, mais on en a parlé tout à l'heure, et il te signale à propos du disque qu'on entend actuellement, magnifique album, super en concert aussi, super bravo, voilà, c'était pas une question, c'était juste un compliment. Patrick Le Cacheur, que tu connais bien, te demande si on peut imaginer un album solo de Arnaud Fradin.
Ouais, je sais pas, enfin solo ça veut dire pour moi,
ça veut dire tout seul.
Tout seul, ouais, pourquoi pas, mais j'ai en tête en ce moment, je me dis dans la démarche acoustique, vu qu'on dit en plus on fait quand même quelques concerts en duo avec Thomas, et puis que bon c'est beaucoup moins, c'est pas lourd à produire, de dire de faire un petit disque de d'autres chansons qu'on joue nous en duo en concert et d'en faire un album, un petit album, alors pas forcément le distribuer parce que ça engage beaucoup d'investissement et de travail en amont. Mais en tout cas, le rendre disponible à la vente sur Internet, peut-être. Enfin, on imagine aussi des trucs économiquement faciles à réaliser aussi, parce que c'est un album comme je l'ai fait avec Rose Combo, il est distribué par l'autre distribution, j'ai fait comment dire quelque chose. Je suis totalement producteur de disques.
Ben, on l'a pas dit ça, mais c'est vrai qu'on peut l'évoquer parce que tu n'es plus chez Dixie Frog, tu n'es plus chez Nueva Onda Records, tu es chez vas-y.
Chez Mojo N Records.
Voilà, donc, c'est un peu
mon label que je monte avec le Tanguy Aubray qui est attaché de presse sur le disque d'ailleurs.
D'accord.
Mais qui monte aussi le label avec moi et qui est manager de Malten Mead qui officiellement et qui avec qui je travaille aussi en parallèle sur le travail que j'ai envie de faire sur ce label. Parce que finalement on s'est aperçu que tout ce travail un petit peu de création de disques, de montre, enfin vraiment de le fait de faire un disque dans son entier, on était déjà pas loin d'arriver à finalement à le faire comme un label parce que tous les disques qu'on a pu faire avec Dixie Frog, on a toujours voulu par exemple avoir un attaché de presse en plus qui a travaillé peut-être d'une manière un peu différente que ce que fait Dixie Frog habituellement. Donc, tout ça, nous a construit en expérience. L'expérience avec Tony Green était aussi encore une autre expérience, puisqu'on a travaillé avec Nueva Onda en production, en coproduction, entre Nueva Onda et Blues Production, qui est notre association avec laquelle j'ai évolué depuis pas mal de temps. Et du coup, c'est vrai que c'était encore une autre expérience. Et puis, après, au bout d'un moment, on s'est dit, après tout, on est capable, on a les moyens aujourd'hui de pouvoir produire tout seul. Enfin, ça, on le faisait déjà.
Ouais.
Mais aussi d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et à partir du moment où on a trouvé un distributeur...
C'est l'autre distribution, c'est ça.
Exactement. Quand on l'a rencontré, ils ont tout de suite fait confiance. Bon, il y avait aussi finalement l'expérience de Malten Mead, donc forcément, ça les intéressait. Mais cela dit, le Road Combo, n'étant pas un gros projet comme celui de Malten Mead en termes de nombre de musiciens et tout ça, j'ai dit, c'est une bonne façon de faire les choses. En plus, le disque faisait à la maison... On n'était pas sur des gros surcoûts de production, j'ai envie de dire, mais du coup, c'était l'occasion de pouvoir tester un peu une espèce de projet léger sur le fait de monter ce label-là. Et du coup, c'est vrai que ça a été une réussite jusqu'ici, en tout cas, puisque le disque c'est aujourd'hui sorti en novembre et on a déjà écoulé plus de 1710.
Ah oui, c'est super ça.
Donc quand tu as fait tout ça tout seul, entre guillemets, tout seul en tout cas, j'étais avec Tanguy, mais j'ai... Tout l'aspect de production de l'album, c'est moi qui investis mes deniers personnels. Je suis assez content parce que j'ai passé beaucoup d'heures dans mon local à enregistrer mon disque. Ça n'a pas été le plus long, c'était le mixage qui a été long parce que aussi j'essaie de m'atteler à quelque chose que je ne fais pas habituellement, c'est-à-dire d'assumer un mix tout seul, à le faire tout seul. Et avant, j'avais toujours été avec Albert, qui est Albert Midocchian, qui a fait tous les disques de Malten Mead. Ça fait d'une manière très très bien, mais j'avais justement sur ce disque-là, j'avais tellement un truc en tête personnel que je voulais essayer d'aller au bout de mon idée. Alors ça a pu être foiré. Il se trouve que j'ai plutôt eu un bon accueil du disque. Donc je suis assez content en fin d'année d'avoir pas mal d'articles plutôt positifs sur le projet. Et puis en tout cas des articles qui faisaient le sentiment que beaucoup d'auditeurs avaient compris. La démarche que j'avais envie de faire, en fait.
Envie de dire, par rapport au distributeur, il y avait quand même la marque fabrique de qualité d'Arnaud Fradin, avec tout ton background. Tu parlais de Multilmic, bien sûr, mais on te connaît comme un des acteurs, un des fers de lance du blues en France. On va pas avoir peur des mots. Et puis, il ne fallait pas réfléchir deux fois, il fallait y aller. Don't think twice, it's all right. Un morceau tout en arpège avec un petit détour par la folk, pourquoi pas. Moi je trouve ça très 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 frais, en tout cas comme interprétation. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ce titre là?
Ce titre là, c'est juste que je jouais depuis pas mal de temps avec Thomas en duo en concert, et puis il y a deux trois morceaux de Dylan comme ça que je joue. Et puis c'est vrai que c'est toujours un morceau qui a touché les gens quand on va jouer en live. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le joue, on sent une écoute extrême, on sent une émotion aussi aussi la signification, le texte du morceau en lui-même. Et je pense que, étant donné le ressenti, qu'en tout cas j'adore jouer cette chanson-là, on adore tous jouer cette chanson, on s'est dit, c'est vrai que ça s'éloigne un petit peu du répertoire blues. Mais pour moi, finalement, l'émotion est là, et le côté un peu picking, tout ça, ça peut être vraiment... en tout cas, c'est pas si éloigné que ça. Puis surtout, j'étais à la base... J'ai découvert Latin Hopkins en même temps que Bob Dylan.
Ah oui, donc forcément...
Donc, c'était mes premiers albums. Les deux premiers albums, c'était Latin Hopkins et Bob Dylan, tu vois.
On pourrait appeler cet album Best of Rose Influence, peut-être.
Carrément, parce que c'est un peu... je pense que... Oui, il y avait cette idée-là, c'était... je pense que depuis tout ce temps qui est passé, cet album blues acoustique, je l'avais dans ma tête, enfin, je l'avais en moi, mais je... tous mes copains qui m'ont connu avant l'époque Maltémique électrique me tannaient tous les jours, pas tous les jours, mais régulièrement pour me dire ouais, quand est-ce que tu vas aller faire le disque acoustique, quoi.
Eh oui.
Et ben voilà, il a fallu prendre le temps de le faire.
Il est là. Et puis un petit peu plus loin, on a monsieur Eric Bibb qui arrive. Je pense qu'il était pas loin depuis le début, mais avec Don't Let Nobody Drag Your Spirit Down, vous êtes à fond dedans les garages, je trouve. Hein.
Ouais.
Il y a une espèce de suspense, voilà, c'est encore une fois, on parle sur les morceaux, c'est des trucs qui se font pas à la radio, mais
ouais.
pour décortiquer l'album aussi, ça peut être intéressant. Voilà, tout monte dans une espèce de tension dramatique, mais tranquillou en même temps.
Ouais, carrément. Ça déroule
naturellement, quoi, j'ai envie de dire.
Bah oui, c'est vrai que c'est un disque, étant donné que c'est acoustique et que c'est l'esprit est vraiment de rester là-dedans, c'est vrai qu'on est dans une approche où chaque instrument qui arrive... on entend bien parce qu'on est très peu nombreux et ça joue plutôt d'une manière posée, donc forcément ouais. Dès que l'harmonica arrive, c'est vrai qu'il y a eu des questions, des moments de dire ouais l'harmonica il arrive trop tôt, ça serait bien qu'il arrive plus tard. Enfin, il y a eu des choses comme ça, on se disait on a toujours dans ce disque là on a toujours plus enlevé des choses qu'on en a rajouté en fait.
Vous avez fait beaucoup de prises pour chaque titre?
Non, il y a des titres on en a fait 2-3, je sais pas, ça dépend des. Il y a des titres on a plus galéré que d'autres, je pense, trouver le tempo. Trouver le ressenti qui nous correspondait, puis voir, en écoutant le disque aujourd'hui, hein, il y a certaines versions, je dirais pas lesquelles.
Ouais, tu referais.
Il y a des trucs, soit dans la prod, soit dans le son de la prod, je suis pas content à 100%, ou des versions, je me dis, ouais, ça aurait pu être plus, on aurait pu toucher, être encore plus dans l'émotion, parce que je sais qu'on a fait des super versions sur certains concerts, notamment, mais c'est vrai que c'est pas évident de retrouver en studio cette énergie de ce que tu peux avoir en concert quand t'as un public qui est devant et qui t'écoute, en fait. C'est difficile, hein. mais je pense qu'il faut arriver à retrouver ça parce que c'est ce qui va toucher l'auditeur, c'est normal. Hein.
Parce que à un moment, il faut arrêter les choses, il faut bien que le disque sorte, j'ai envie de dire.
Exactement, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête non plus parce que c'est une marque dans le temps.
Ouais.
Enfin voilà, puis moi je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est jamais un disque n'est jamais parfait. Hein.
Je reviens aux questions des auditeurs. Il y a Olivier Durosseau qui demande, tu as une voix, enfin qui affirme, et puis ensuite qui te demande, tu as une voix qui sonnerait aussi en français, ça te dit pas à l'avenir?
Ouais. Bah qui sait, ouais, je sais pas, ouais, c'est possible, hein, pour l'instant il n'y a pas eu de projet qui m'ont donné l'envie de le faire, et bien que j'aime bien la langue française, mais c'est pas évident, c'est vrai que quand t'es plongé dans la culture américaine depuis tant d'années, j'adore ce que fait ce qu'on peut parler l'artiste en français, en blues, tu vois, je trouve ça bien, mais c'est vrai que j'ai eu plus de mal, mais aussi parce que je pense que dans nos volontés, nous, de nous exporter avec le groupe ou avec les groupes dans lesquels je joue, bah c'est vrai que mine de rien, quand on va jouer en Allemagne ou dans ce genre de pays-là, bon, bah ça parle anglais.
C'est plus facile d'être compris, voilà, exactement.
Bah ouais, c'est une deuxième langue, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu moins de complexe des groupes français à chanter en anglais. Mais c'est vrai qu'après, je sais pas, peut-être qu'un jour, j'ai un papa qui est pas mal écrivain, enfin qui est pas écrivain vraiment, mais qui écrit beaucoup en français, hein, bien sûr. Ouais. Et je me suis posé la question d'ailleurs, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être lui demander d'écrire des choses. Ok, je pourrais mettre en musique, enfin, c'est des idées que j'ai en tête, bon, ça serait peut-être dans quelques années, mais...
À la limite, pourquoi pas faire comme Nico Wayne Toussaint, mettre un morceau de temps en temps dans la...
Ouais, c'est tout à fait, c'est clair, non, mais c'est vrai, et c'est vrai que c'est assez... ça m'a toujours gêné un petit peu quand j'ai entendu des gens comme Corey Harris ou d'autres artistes américains commencer à chanter des chansons en français, parce qu'il y a aussi l'influence africaine, hein, enfin l'africaine, et à travers ça aussi la langue française, en fait,
oui,
hein, finalement.
Bah, oui, oui.
Bah du coup, je me suis encore souhaité comme un con, en me disant, mais ouais, putain, t'es français, tu chantes pas en chanson en français, t'as les Américains qui chantent en français, quoi, t'as dit, putain, merde, ça craint, quoi.
C'est vrai qu'il y en a quelques-uns.
Ouais, mais ouais.
Il y a aussi les chanteurs français qu'on aime bien exporter, hein, des chanteurs ou des chanteuses, voilà.
Ça, non, mais carrément, non, mais je pense que la langue française est une langue... Oui, entre guillemets international sur certains points de vue, puisque bon, tu prends Aznavour est connu aussi bien dans n'importe quel pays du monde qu'en France, quoi.
Oui, alors Aznavour c'est un bon exemple. Mireille Mathieu aussi, maintenant, bon,
ouais.
Voilà, c'est. Alors, puisqu'on parle du chant en français, ça m'amène juste à la question d'en dessous, et je t'avoue que je triche absolument pas. C'est vraiment dans la timeline du Facebook. Il y a Mike Lécuyer, voilà, qui nous dit as-tu des nouvelles des musiciens de la première version de Molted Milk, l'album Peaches, Ice Cream and
Wine?
Ouais,
tout à fait.
Ouais.
Alors on peut... pour l'instant, tous les anciens membres sont toujours vivants.
Ça, c'est bien.
Peut-être parce que dans les journaux, peut-être tous les gens, le bleu main, l'ancien batteur de machin qui est
mort. Putain, c'est vrai.
Et donc, tout le monde, j'ai toujours des nouvelles d'ailleurs des anciens membres, enfin pas tous d'ailleurs, hein, parce que bon, chacun suit sa route, et puis la vie, c'est vrai que c'est aussi que chacun fait ses trucs et on n'a pas toujours le temps de se voir. Il y en a certains que je croise sur les concerts, certains que je croise à Nantes, parce qu'il y a, je pense, à Jean-François Vincendo. par exemple, qui est Jean-François Vincendo, c'est le remplaçant de Igor dans Metallica, mais aussi dans Rose Congo, parce qu'il est contrebassiste, excellent contrebassiste.
D'accord.
Donc, du coup, bon, bah, vraiment, Jeff, c'est le remplaçant officiel. Michel, je le croiserai, l'ancien batteur, je le croiserai régulièrement, c'est des petits appartis, je le vois de temps en temps. Manu, je l'ai vu il y a 3 jours, parce qu'on a joué à Paris et il revenait juste des États-Unis, donc il est venu au concert, il est venu faire le bœuf et tout ça. Donc, en fait, voilà, c'est marrant. Pour moi, c'est assez important de prendre des nouvelles aussi des gars. Et puis, il y en a certains que je recroise, en fait. Hein.
Ça ferait un sacré big band si on réunissait tous les anciens musiciens.
Je ne sais pas imaginer. Pour les 20 ans, c'était assez compliqué, parce que les 20 ans, on a fait les 20 ans à Nantes, au Sterlux.
Au Sterlux, ouais.
J'avais invité aussi d'autres personnes, parce que je voulais aussi réunir les gens autour d'une espèce de fête, si tu veux. Et moi, j'avais envie d'inviter tout le monde, mais c'était très compliqué de... sur la même soirée, qu'en plus qu'elle était enregistrée, machin truc, filmée, de faire jouer un des batteurs sur un morceau, l'autre bassiste, le deuxième bassiste sur le troisième, enfin, c'était hyper complexe. Mais en tout cas, ce que j'aimerais faire cette année, c'est de faire une espèce de peut-être de concert un peu en mode un peu privé, matanique, mais avec d'inviter tous les potes, tous les gens qui ont joué dans le groupe. Quoi.
Ah, ça serait cool, ça. Ouais. Penses que chaque instrumentiste pourrait, comme ça, être interchangeable et s'adapter au répertoire même actuel de Malted Milk?
Ouais, tout à fait. Ouais. Quand Jeff vient jouer avec nous sur les concerts, ça se passe super bien. Ouais, avec Rose Combo, c'est pareil. Et je pense qu'il y a... Bien sûr, chaque musicien... En même temps, chaque musicien a apporté aussi sa part d'influence dans le groupe. En fait, à chaque fois qu'on a eu des musiciens différents, ils ont apporté soit une façon de composer, soit une façon de jouer. Mais en même temps, quand Jeff joue des morceaux d'Igor, par exemple, parce qu'il y a pas mal de morceaux qu'on joue qui ont été écrits par Igor, par exemple, bah, ma foi, il le joue d'une manière différente. Du coup, c'est intéressant aussi, quoi. Et chaque musicien, on est tous différents les uns des autres, forcément, ça apporte toujours quelque chose de différent. Et moi, je trouve que j'aime bien le changement aussi, enfin j'aime bien le changement, c'est pas quelque chose, c'est vrai qu'on peut être des fois dans des groupes, ouais tu te fais remplacer, de pas être content que un autre musicien se fasse remplacer pour jouer avec un autre groupe et tout ça, et puis moi bien sûr je pense que dans un groupe il y a aussi un noyau dur important, ça me paraîtrait impossible de remplacer la moitié des musiciens pour une date par exemple.
Oui d'accord. Ouais.
Mais quand j'ai...
Il faut garder une certaine cohérence et puis ménager certaines sensibilités. C'est vrai que par exemple, je pense aux cuivres. Les cuivres, ils sont obligés de jouer avec plein de gens parce que on peut pas jouer en octet dans toutes les salles de France, malheureusement.
Exactement.
C'est juste un exemple, mais c'est vrai qu'une ossature, basse batterie, c'est pas évident, ça nécessite quand même pas mal de rodage, quoi, j'ai envie de dire.
J'avoue, on a fait une seule fois une date où c'était remplacement batterie et basse.
Ouais.
Sur la même date, je t'avoue que c'est plus compliqué. Parce qu'il y a aussi une habitude de jouer ensemble. Et pour moi, c'est le socle du truc.
Ouais.
Et ce socle-là, il n'est pas évident. Quand tu as deux remplaçants, du coup, tu n'as pas le bassiste ou le batteur pour donner des signes ou donner une direction, entre guillemets, à l'autre. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, voilà, c'est fait partie du truc. Après, nous, on s'organise aussi pour... quand on accepte un concert, on est quasiment sûr qu'on est à 90% tous présents sur la date. Alors ça peut être les remplacer, ceux qui le sont le plus et qui le sont quasiment uniquement, c'est les cuivres.
Hein. D'accord, voilà.
Qui ont eux, forcément, puis il y a des périodes où c'est un petit peu calmé, Maltamique, en 2017. Du coup, c'est vrai qu'ils avaient besoin de bosser, tout ça, donc c'est pas évident, hein. C'est sûr, c'est normal.
Mais la cohésion est toujours là, et puis c'est également le cas dans ce Roots Combo. On est en train de découvrir le dernier titre qui s'appelle Good Morning Love. 12 titres, je crois que tu l'as dit, tu aurais pu en mettre 15 ou 16, tu aurais pu faire un double album même du Roots Combo. Sur scène, vous avez encore combien de trucs possibles à jouer, j'imagine.
Une 25-30.
Voilà, ça tient du jukebox, quoi.
Ouais, c'est ça, mais après, on choisit justement, on essaie d'être pertinent sur ce qu'on loue, dans le sens où on essaie de faire aussi un set où dans le set, en live, j'ai un morceau que je joue tout seul. Ça me laisse le choix en plus de ça de jouer le morceau que je veux en fait.
Oui.
Y a ça et puis je pense que sur scène on essaie de reproduire sans la copier l'état d'esprit de l'album en fait. On reste dans une approche de live, hein, on n'est pas là pour juste faire exactement comme le disque. Mais du coup on essaie d'avoir cette approche là, donc c'est aussi passé par une résidence, un travail de son aussi pour essayer de reproduire avec les micros. Ce qu'on a sur le disque, hein, parce que c'est jamais facile quand on est en acoustique sur scène avec les retours et puis les larcènes et tout ce qui s'ensuit. C'est pas toujours évident d'avoir le son acoustique un peu tout ça. Et donc il y a vraiment, dans notre démarche en live, il y a aussi cette volonté que quand les personnes entendent le son et entendent le groupe jouer, qu'ils auront l'impression d'entendre, nous entendre proches, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais d'avoir une approche.
En tout cas, il fallait que l'album ressemble à ce que vous allez produire sur scène, ouais, parce que ça, c'est essentiel quand même.
C'est cool. Ouais. Et c'est, je trouve ça, et du coup, c'est intéressant, puisque, vu que ça jouait live, finalement, c'est produit, mais c'est produit d'une manière assez légère. Je sais pas comment dire ça. C'est pas les machines qui ont donné le son du truc,
c'est clair.
C'est les instruments. Donc, c'est vrai que je pense que le live est une bonne. En tout cas, le premier accueil que j'ai eu sur les premières dates, je pense qu'on en a joué à La Traverse, à Cléon, il y a eu ça, il y a eu des gens qui sont venus me dire « Ouais, j'ai écouté le disque, enfin, ce que vous faites en concert, c'est pas la même chose, bien sûr, mais on retrouve vraiment l'esprit du disque. » je me suis dit « C'est cool, c'est bien, c'est pas... » Et je pense qu'inversement, c'est-à-dire que les gens qui vont voir le concert en écoutant le disque, après, ils retrouvent aussi vraiment l'esprit du truc. Et c'est pas genre « Ouais, c'est bien sur disque, mais on préfère en live, c'est forcément toujours différent, mais... »
Non, mais il y a de toute façon, voilà, tu le dis bien à ta façon, il y a une cohérence dans la démarche, que ce soit en live ou en studio. Et puis il y a surtout quelque chose, à mon sens, et là ça reste très personnel cette remarque, un respect du public et un respect de l'auditeur d'une manière générale. Et en tout cas, on se rend compte à travers cette interview fleuve, Arnaud, une volonté d'expliquer les choses et puis d'être tout à fait clair et posé. Enfin voilà, moi c'est une démarche que j'apprécie tout particulièrement. Arnaud Fradin, tu es ce qu'on appelle un bon client à la radio. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aussi.
Ça fait plaisir. Après, c'est sûr que. En tout cas, il y a plein de sujets qui m'intéressent, puisque c'est vrai que je suis pas juste un musicien qui joue son instrument. C'est vrai que le fait que je m'applique dans la production, dans pas mal de choses, c'est sûr que je pense que c'est intéressant. En tout cas, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est pas évident. Enfin, c'est-à-dire que bien sûr, en tant qu'artiste, on prend des risques. Et quand on produit, on prend des risques aussi. Mais c'est vrai qu'il faut savoir en prendre des risques. Et c'est pas toujours évident. Hein. Je dis pas, parce que le disque, en l'occurrence, a plutôt un bon accueil, il marche plutôt bien. Je suis hyper content. Mais ça aurait pu être le contraire. Hein. J'aurais fait quoi dans ces cas-là? C'est pas évident. Hein.
Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, toi, tu fais partie de ceux qui montrent l'exemple, parce que faire travailler dans cette toute petite niche qui est le blues. J'ai envie de te comparer à des gens comme Nico Duportal, Fred Chapelier, Nico Wayne Toussaint, qui sont également des travailleurs acharnés, qui sont arrivés tout comme toi à essayer d'établir un crossover vers un public qui est pas forcément strictly censure, on va dire. Des amateurs de blues purs et durs. Et puis, heureusement, parce que d'abord, il y en a de moins en moins. Puis, deuxièmement, il faut quand même savoir s'ouvrir au grand public. Enfin, ça reste personnel. Mais tout en gardant ses racines et sans vendre son âme au diable. Quoi. Voilà, tu fais partie de cette catégorie d'artistes, tout comme on fait partie de cette catégorie d'artistes, les créateurs du blues en France, Patrick Verbeek, Benoît Blueboy, Paul Persson. Il y a une tradition à perpétuer depuis les années 60-70. Et en tout cas, Arnaud, tu en fais partie à 100%. Le travail paye toujours, de toute façon.
Mais j'espère bien. Sinon, ça serait un peu frustrant. Mais bon, ça peut arriver. Hein. On peut se planter. Mais c'est vrai que dans la musique, c'est compliqué, parce qu'on peut faire tous les artistes, une fois dans leur carrière, des disques qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas reçu l'accueil du public ou leur public à eux. Donc c'est passé. C'est vrai. Je pense qu'à chaque fois, c'est une démarche tout à fait un peu subjective. Enfin, en tout cas, on peut pas se dire tiens, mon album va marcher. J'avoue que quand j'ai fini mon disque, je me suis dit on verra quoi.
C'est clair. À moins d'avoir un nom de star et de pouvoir sortir n'importe quoi et être sûr de les vendre à l'avance.
Je citerai pas bon.
Alors en tout cas, on souhaite bon vent bien sûr à Mojo Hand Records qui vient de naître, et tu te lances dans la production également avec des gens comme Theo Lawrence. Ça c'est intéressant à dire aussi, parce que. Ce sont des Parisiens qui sonnent comme des Américains, Theo Lawrence and the Hearts.
Quand j'ai découvert ce groupe-là, c'est halluciné totalement. Théo, je trouve que c'est un artiste excellent. Il a marqué d'ailleurs le coup, hein, parce que quand il est venu jouer, je l'ai chanté à deux morceaux sur les 20 ans de Malte & Mick au Sterlux à Nantes début décembre. Et c'est vrai que ça a été un peu halluciné sur la maturité du chanteur.
Du chant, c'est incroyable. Quel âge il a, Théo?
23, je crois.
Incroyable.
Et donc, hyper impressionné. Et puis, c'est un. Artiste que je trouve puis en même temps aussi bon en tant que chanteur que compositeur, parce qu'il écrit des super chansons avec pas tout seul, parce qu'il est souvent avec les gars aussi de son groupe, mais franchement moi j'étais hyper impressionné par les premiers morceaux que j'ai entendus. Je continue à l'être dans ce qu'il continue à faire aujourd'hui, et en plus c'est marrant parce qu'il y a des parallèles se font, parce que moi j'ai en parallèle de ce que j'ai fait avec le projet du Roots Combo, j'ai travaillé sur le groupe qui s'appelle The Possums, qui est un groupe de Bordeaux avec Thibaut Ripaud. Et du coup, bah, y a eu un axe aussi de travail là-dessus, et ils s'est trouvé qu'ils sont un peu de la même génération, hein, ça c'est clair. Mmh. Et du coup, bah, on a produit un truc, eux ont fait écouter ce qu'on avait produit ensemble, ils ont accroché parce que c'est exactement le même univers, les mêmes influences, et du coup, ils se sont retrouvés, ils ont fait un EP de 4 titres ensemble avec Théo et Louis Marin, Renaud qui est le guitariste qui joue avec lui, qui est arrangeur. Et du coup, bah, voilà, ils ont fait un truc super, et moi je suis hyper content que. En fait, que tout ça fasse des ponts, en fait, et que nous, on puisse être aussi un moteur, Mojo & Records, un moteur de gens qui ont d'expérience, un petit peu d'expérience dans ce métier-là, et qui peuvent aider des groupes qui n'en ont pas du tout, quoi. Enfin, et pas qui... du tout, parce qu'ils viennent de débarquer, et ils savent pas comment ça marche. Et,
dans et qui agissent où... dans le même esprit, en fait.
Exactement, ouais, ouais, mmh. Et puis des passionnés qui ont du talent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la génération.
Il y en a.
Bah, je t'avoue que quand j'écoute Théo Lawrence, ou même Thibaut des Possums,
Thibaut Ripaud, c'est ça.
Thibaut Ripaud, je pense être assez loin. Enfin, en tout cas, à leur âge, je pense que je n'avais pas du tout la même maturité. Mais non, sincèrement, je dis ça au départ. C'est vrai que.
À leur âge, tu n'avais pas écouté les albums de Multilmix, c'est pour ça aussi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Hein, tu vois?
Non, non, mais ouais, bref. Mais bon, en tout cas, non, mais je trouve ça chouette. Et puis, moi, j'adore aussi faire de la prod pour d'autres aussi, c'est bien. Ouais. Pour soi-même, c'est sympa, mais pour des autres, c'est bien aussi, parce qu'on a plus de recul sur les choses, peut-être, je ne sais pas. Mais...
Bah oui, être entraîneur-joueur en sport, ça doit être une sacrée expérience aussi. C'est un peu ce que tu fais dans le domaine de la musique.
Ouais, mais j'aime bien. Puis je pense à mes vieux jours aussi, tu sais, à un moment donné.
Ah, déjà, non.
Non, non, mais je rigole, mais disons que d'ici 10-15 ans, je serais content aussi de faire un petit peu de production. Et des fois, c'est vrai que la production te permet de rester plus proche de ta famille et moins en tournée aussi. Donc,
c'est possible.
Bon, ouais. Ça peut être des possibilités aussi de travail. Voilà, bon, ça...
Arnaud, j'ai une toute dernière question quant à tes collaborations. On évoquait tout à l'heure Carl W. Davis et Tony Green. Vous avez fait un album ensemble avec Tony Green. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu? Elle a refusé de faire un deuxième album avec vous?
Ouais, enfin disons que oui, refusé. Oui, on l'a refusé, mais en fait c'était. Nous aussi, on s'interrogeait. C'est-à-dire que c'est pas évident quand tu fais un. Tony qui existe depuis pas mal de temps. Tony nous a permis aussi d'aller un peu plus loin. Ça nous a permis de continuer à faire des grosses scènes et des super beaux festivals. Mais après, travailler avec un artiste américain, c'est pas toujours facile à certains niveaux. Aussi, pas pour des raisons qu'on s'entende pas ou quoi que ce soit. Hein. C'est plus aussi économiquement, il faut assumer le truc qui est pour le coup beaucoup plus lourd. Et c'est vrai que le disque qu'on a fait avec Tony, qui était plutôt un disque qui a été bien accueilli et qui est, je pense, un bon disque, a coûté quand même hyper cher, au final.
Ouais,
et c'est vrai que, mine de rien, dans la musique, je suis pour le fait de s'investir à fond à tous les niveaux. Mais pas non plus pour s'endetter pendant 15 ans. Donc, si tu veux, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui cette difficulté-là, c'est il y a aussi ça finalement quand on fait un album, le coût économique, on peut pas se permettre aujourd'hui même un bon disque, on peut des fois pas plus de 5-6 000 disques. Donc c'est pas évident avec 6 000 albums vendus de rembourser 50 000 euros d'investissement. Donc c'est à moins
peut-être d'accéder au marché européen ou au marché américain. Mais ça reste
ouais,
très compliqué.
Non, mais carrément, je le pense aussi. Mais c'est vrai que voilà, faut arrêter dans la réalité. Et puis en même temps, je pense que Tony avait envie d'expérimenter peut-être d'autres choses, peut-être de faire quelque chose sous son nom. Parce que c'est ce que j'ai senti aussi. C'est que je pense que Tony Green, c'est quelque chose qu'elle a accepté. Elle avait envie de le faire aussi parce qu'elle appréciait le groupe. Et en même temps, voilà. Et donc c'était vraiment deux entités, entre guillemets, hein, Matt Tannic, Tony Green. Et je pense que voilà, elle s'imaginait peut-être aller plus du côté de sa carrière propre à elle en solo, quoi. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, même si elle ne l'a pas exprimé clairement, mais je pense qu'il y a de ça. Et puis voilà, je pense que ça donne l'occasion de revenir un peu entre nous dans le groupe pour faire un nouvel album avec peut-être une certaine liberté, peut-être qu'on en aura peut-être moins, en ayant une chanteuse, je sais pas, enfin, je t'avoue qu'on verra en fait ce qu'on va faire, mais on est dessus en ce moment justement, c'était une expérience hyper enrichissante.
J'imagine. Et puis vous aviez les mêmes vibrations. Vous aviez. Moi, je pensais beaucoup à High Records, à tout ce que vous avez pu enregistrer dans les années 70. Et puis, c'est aussi. Moi, j'en ai pas mal discuté avec Igor. Au début, il faisait de la radio, au début des années 2000. C'est vraiment les trucs qui le faisaient vibrer. Je sais qu'encore maintenant, il est fasciné par Johnny Guitar Watson. Ça faisait quand même pas mal de points communs avec Tony.
Tout à fait. Ouais,
voilà.
Ouais.
Arnaud, pardon. Juste dire qu'il y a un petit clin d'œil, encore une fois, de Mike Lécuyer sur le Facebook, qui nous met « Arnaud Fradin est un bon client pour une interview. Il ne reste plus maintenant qu'à transcrire l'interview et publier un bouquin. »
Ah ouais.
C'est à quoi j'ai rétorqué. Vas-y, Mike, publie-le et je signerai la préface. Il n'y a pas de problème. Arnaud, ça a été un très, très grand plaisir de t'avoir pendant une heure au téléphone et au poste avec, en fond, ces 12 titres que tu as créés avec le Roots Combo, un quartet à qui je souhaite longue vie parce que c'est une très très belle formation avec des musiciens talentueux, tous les uns comme les autres. Et puis longue vie bien sûr à Mojo Hand Records. On va écouter en intégralité le titre Steady Rolling Man qui est issu du répertoire de Robert Johnson. Et puis on reviendra régulièrement cette année sur cet album qui est en fait la discothèque de chevet d'Arnaud Fradin.
C'est ça.
Tout à fait. Merci à toi Arnaud. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire, une petite phrase ou peut-être, je sais pas, les prochaines dates de concert, c'est comme tu veux.
Ouais, écoute, alors pour les dates de concert, il faut aller nous voir, faut pas hésiter à venir nous voir sur le Facebook, il y a aussi le site internet, parce que nous avons un site dans lequel nous mettons à jour les dates, et puis pour ceux qui n'ont pas le disque, courez l'acheter.
Exactement.
Supportez-nous, parce que c'est vrai que les gens qui achètent ton disque, c'est aussi des gens qui nous permettent de continuer à travailler, parce que c'est pas que ça qu'on gagne énormément, mais aussi on peut déjà arriver à rembourser notre investissement de production. Déjà j'ai envie de dire c'est cool. C'est vrai que le disque aujourd'hui c'est quelque chose qui nous permet de vivre, parce que c'est à travers le disque qu'on fait connaître les projets. Sans disque c'est difficile, on n'a pas de critique, on n'a pas besoin, donc c'est important d'avoir un disque, mais en même temps faire un disque aujourd'hui continue à coûter un certain prix. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, je pense, pour les groupes, parce que mine de rien, pour avoir un bon disque, il faut investir, mais il faut tourner. Enfin bon, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, on continue à y croire et on continue à vouloir continuer à faire des choses.
Bah oui, on s'en rend bien compte. Je viens de mettre sur le timeline de Sweet Home Chicago le lien pour aller sur rootscombo.com. Et puis les gens qui souhaitent acheter l'album en ligne, ça sera possible dès maintenant. Un album qui est sorti au mois de novembre. Merci encore Arnaud. Et puis à très bientôt sur la route du blues en 2018. On va se revoir, c'est forcé.
Avec plaisir. Bah oui, on va se recroiser, c'est sûr. J'en suis sûr.
Passe un beau week-end Arnaud. Encore merci.
Ciao, toi aussi. Ciao.
Ciao. Brain, some monkey man on a mind. va prolonger le plaisir de cet album, Arnaud Fradin Roots Combo, avec le titre Steady Rolling Man, qui est également le titre de l'album. Merci encore à Arnaud pour cette belle et longue interview en direct sur le 666 pour ce Sweet Home Chicago numéro 1027. On est ensemble jusqu'à 16h, à partir de 15h et quelques, on en aura terminé avec les nouveautés, puis peut-être qu'on se réservera une petite fin d'émission pour quelques vieilleries, parce que j'aime bien de temps en temps vous revenir un peu à la cave, hein, un peu comme fait l'ami Antoine Decaune sur France Inter. Mais ça, c'est possible déjà parce que vous m'y obligez souvent en me demandant des dédicaces, par exemple d'Albert King, par exemple de Freddie King, comme ça sera le cas aujourd'hui. Donc si vous voulez des dédicaces, des titres pas forcément précis, mais en tout cas des noms d'artistes qui vous intéressent, soit de réécouter, soit pourquoi pas de découvrir ou de faire découvrir, eh bien vous allez sur le timeline Sweet Home Chicago de Facebook, c'est tout simple. On poursuit avec Arnaud Fradin and His Roots Combo, toujours extrait de Steady Rolling Man, ça s'appelle Two Trains Running. On vient de passer un grand et bon moment avec Arnaud Fradin et son Roots Combo. On va poursuivre avec le disque du mois. C'est toujours l'album de Jason Ritchie and the Bad Kind qui s'appelle Approved by Snake. C'était sorti à la fin du printemps 2017 chez LR Soul Records. Ça s'appelle I'm Too Strong for You. Tout un programme. Where I'm
just an outsider and a misfit. Not again, boy. You know I feel like a broken toy. I'm too well for the hospital. I'm too sick for all the healthy. Too rich to just like a broken toy.
Voilà pour Jason Ritchie and the Bad Kind, l'album Approved by Snakes. On va réjouir un petit peu l'âme et puis peut-être faire davantage plaisir aux danseurs avec l'extrait d'un tout nouvel album qui s'appelle Rise Again, qui nous vient des pays du froid. Je pense toujours à l'ami Francis Rateau qui se réjouit à chaque fois qu'un album scandinave arrive dans sa discothèque. Voici Emil and the Ecstatics, l'album Rise Again. Ça s'appelle Change of Plans. Emil and the Ecstatics, extrait de l'album Rise Again. On va changer de style et puis on va revenir un petit peu à l'ancienne avec un album quand même tout récent, puisque c'est le disque de Benny Turner, bassiste et frère de Freddie King, disparu en 1976. On écoutera Freddie King un petit peu plus tard, puisque ça m'était réclamé parmi les dédicaces. Mais en attendant, voici cet hommage signé Benny Turner, le frère de Freddie King, dans My Brother's Blues, tout simplement, avec quelques invités de marque. Otis Clay, ça avait été enregistré il y a quelques années maintenant, et quelques mois maintenant, je pense, Roosevelt Collier et puis Caroline Wonderland. Benny Turner qui reprend au chant et à la basse certains des tubes popularisés ou créés par Freddie King. Ici, il s'agit d'un morceau de B.B. King, mais qui a été longtemps joué par Freddie, qui n'est absolument pas le frère de l'autre, hein, vous avez bien suivi. Voici Ghetto Woman par Benny Turner. Thank you.
keeps on falling. Like the tears.
C'est moi Blues, morceau de B.B. King, popularisé par Freddie King, joué par le frère de Freddie King, Benny Turner, voilà, dans son album My Brother's Blues. On reviendra sur ce disque au cours des prochaines émissions. La toute prochaine émission aura lieu le samedi prochain, samedi 27 janvier. Il y aura un break pour le 2 février, ensuite, le 3, pardon, et on se retrouvera le 10 février. Le 27 janvier, on aura au téléphone Yann Malek du groupe Cotton Bellies. Le 10 février, ce sera Jacques Picard qui nous présentera une nouvelle édition du Everest Blues Club avec notamment la chanteuse anglaise Kyle Brox, une soirée donc qui est malheureusement sold out, ça y est, c'est déjà complet. Je pense que les locations ont commencé lundi et je pense que dès jeudi c'était fini, les 200 places sont vendues, mais on en parlera quand même à l'antenne. Et puis ensuite on aura une émission spéciale le 17 février, le soir ce sera Manu Lanvin au Sous-Bock, mais pendant l'émission on aura quelques invités, dont par exemple
Monsieur Alain Jalbert, Monsieur Patrick Le Cacheur, qui seront présents dans le studio pour évoquer la mémoire de Pedro, dont on a parlé la semaine dernière, Pedro Sabater, qui nous a quittés brutalement. Et on parlera également avec Eric Douady, qui sort un nouveau livre sur l'histoire du blues rock. Eric Douady, qui signera son livre le soir du concert de Manu Lanvin. En attendant, voici une première dédicace. Elle est pour toi, Arnaud. Arnaud Fradin, voici Seth Walker, extrait de Gotta Get Back. Ça s'appelle High Time.
About you and me.